nos différences.
Et ça rêve fou dans votre canapé, ça va être le moment de jouer. Vous êtes sur Radio G et vous écoutez le QG. Bienvenue cher auditeur, ce soir seras-tu à la hauteur. C'est le moment de jouer, bienvenue dans nos QG. Tu vas pouvoir participer et ton savoir nous montrer. Grâce au site Radio G, tu vas pouvoir avec nous chatter. Bienvenue cher auditeur, ce soir seras-tu à la hauteur. C'est le moment de jouer, bienvenue dans nos QG. Des questions et des chansons.
Joueurs et joueuses radiophoniques, bonsoir et bienvenue dans notre QG, un quartier général pour s'amuser ensemble. Et quand je dis ensemble, eh bien c'est avec vous aussi, hein, auditeurs, car cette émission est interactive. Donc rendez-vous sur le site radio-g.fr et ouvrez le chat pour répondre à nos questions. Et pour vous accompagner ce soir, nous avons Florian, bonsoir. Ah, je vais mettre le micro, c'est mieux. Nous avons Olivier.
Bonsoir.
Clément.
Bonsoir.
Bonsoir. Nous avons Sonia.
Salut tout le monde.
Et nous avons Winnie.
Salut à tous.
Voilà, les présentations sont faites.
Et moi non, on s'en fout. Non, ouais, on s'en fout. Alors, moi, je t'ai pas prévu.
Normalement, tu n'es pas prévu.
Je suis pas prévu.
Tu es dans les spectateurs. Bon, Jonathan quand même, pour ceux qui veulent entendre sa voix. Samedi dernier, c'était la journée la plus longue de l'année. C'est aussi le premier jour de l'été. Et cette saison, cette saison d'été sera le thème de cette émission. Et bienvenue dans notre QG.
Installez-vous dans votre canapé. Ça va être le moment de jouer. Vous êtes sur Radio G et vous écoutez le QG.
Alors comme je l'ai dit, samedi était la journée la plus longue entre le lever et le coucher du soleil, ce qui nous amène la question d'une auditrice. Marguerite nous demande combien de temps a duré exactement cette journée en 2025 sur Angers, en heures et en minutes. Alors ça peut changer d'une ville à l'autre, hein. Et sur Angers, il y a une comptabilité, on sait exactement combien d'heures entre le lever et le coucher du soleil.
Les heures et les minutes, tu veux ?
Oui, c'est ça.
15h37, non 15h24.
Un peu plus. 15h24, allez, c'est plus.
16h20.
C'est moins.
15h57.
C'est plus.
Je raisonne les 16h, moi, quand même. 16h02.
Ah, 16h02, c'est pas loin.
16h05.
16h01.
Ah!
Ouais. 16h01.
D'ensoleillement, enfin, de lumière.
Ah non, pas d'ensoleillement. Entre le jour où on dit que le jour est levé. Ouais, ouais. Voilà. Et le 21 décembre, c'est la journée la plus courte. Combien c'était?
Bah, le reste. 7h59.
Ah, plus.
Bon, 8h02.
Alors, c'est 8h quelque chose, donc un peu plus.
8h25.
Plus.
8h33.
53. Moins.
7h51.
8h34.
52.
Non, moins.
47.
8h38.
Non, moins.
8h35.
8h27.
Moins.
8h28.
8h28. C'est un compte.
8h30.
8h30. Voilà, 30. Ouais, vous embêtez pas, c'est un compte. Voilà. Très bien. Allez, on retrouve maintenant les questions de nos chroniqueurs. Et quand on parle de jeux, autant parler des jeux. Voici la chronique de Clément.
Ça sent la choucroute, il n'y a pas de doute.
Choucroute de ce temps-là, je te dis pas.
Hein. Oh là là.
Oh la vache.
Alors oui, l'été, ça fait penser à la plage, au beau temps, au t-shirt, mais c'est également le cahier des vacances, les moustiques et la canicule.
Ouais.
Alors vous savez, moi j'aime bien le sport, et le sport en été, bah, c'est surtout les Jeux Olympiques, finalement.
Oui, c'est à regarder chez soi, assis au frais. Voilà. Je suis d'accord avec toi.
Sauf que comme on l'a dit, canicule ne rime pas forcément avec Jeux Olympiques.
Non, enfin, il y a des rimes plus riches, mais tu évites, hein, quand même.
Alors je ne vais pas vous proposer un jeu, aujourd'hui je vais juste vous raconter des histoires, des anecdotes.
Ah bon, c'est pas le concept de l'émission, mais vas-y quand même.
Mais allons-y.
C'est pas grave.
Sur la chaleur avec les Jeux Olympiques. Bon, je vais quand même vous poser des petites questions. Vous inquiétez pas. Okay.
Mais oui. On va jouer quand même, Bruno.
Pas de soucis.
En 1924, ok, les Jeux Olympiques étaient déjà à Paris. Il y a eu une grosse vague de chaleur, ok, qui a perturbé donc les Jeux Olympiques. Et donc le cross-country avait démarré sous 45 degrés. Ok, bon voilà, ça vous pose.
Donc ça, c'est les chevaux alors, cross-country, non?
Le cross-country, c'est je sais même pas ce que c'est.
Rien qui. Oh, mais tu sais, bravo.
Le cross country, c'est tu manges du country, Kinder country,
en courant du cross.
Ouais. Mais je peux te dire que quand il fait chaud, ça fond, c'est pas terrible. On dit bonjour à Mappy qui nous a rejoint sur le chat.
Bon, résultat. C'est l'épreuve d'athlétisme.
Ouais, enlève ton Kinder country, tu parles.
Bon, résultat sur la course. Sur les 38 concurrents qui ont pris le départ, 23 ne franchissent même pas la ligne d'arrivée.
Ah oui, voilà. Ça c'est dur.
C'est un Finlandais qui a gagné voilà, au final. Et il a confié que plus tard que la pratique du sauna lui a permis de mieux résister
à la chaleur.
Voilà.
Ouais, c'est vrai qu'en Finlande, on est habitué.
En 2016, l'histoire de Johan Diniz, est-ce que vous connaissez? Petite question, allez.
Oui, il fait de la course rapide.
Ouais.
Okay. Qui a fait... Qui s'est lâché un petit peu sur la route.
Ouais. Il est pas loin.
Ah oui, j'ai peur.
Il a eu des petits problèmes intestinaux.
Exactement. Bonne réponse.
Et 45
bonne
aussi.
Réponse de Sonia. Voilà. Alors donc, je vous raconte l'histoire. Sous un soleil noir et une humidité étouffante, voilà, 19 athlètes abandonnent une course qui devait se terminer au milieu de l'après-midi. Voilà. En plein pic de chaleur. Et donc, le Johan Diniz, donc l'épreuve c'était 50 km. Au bout de 30 km, il commence à avoir des petits soucis d'estomac.
Crampes d'estomac, d'accord.
Voilà. Ouais. Donc, pris de problèmes gastriques. Et donc, au bord de l'évanouissement en raison d'intenses douleurs intestines et d'une température accablante, l'athlète est contraint de s'arrêter pendant quelques minutes. Donc là, les autres le doublent,
ouais.
Logiquement. Il reprend tant bien que mal, mais à une quinzaine de kilomètres du terme.
Ça lâche.
Il s'écroule.
Ah, il s'écroule.
Il s'écroule complètement. Ouais. Et donc, en fait, les autres l'ont aidé à finir. Là, c'est une belle histoire qui se termine.
Je ne me rappelais pas de ça.
D'accord. Voilà.
Ils l'ont aidé à finir la course ou?
Oui, c'est ça, oui, j'ai dit. On a l'image.
Il a fini comme tes chocolats, Bruno.
Oui, c'est ça.
Puis, il faut que je vous parle du marathon de Saint-Louis en 1904. Et là, petite question pour vous. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé au marathon de Saint-Louis? Allez-y sur des situations un petit peu.
Saint-Louis, ça a rapport avec la température?
Oui, il faisait une grosse chaleur. Mais du coup, qu'est-ce qui.
Est-ce que l'anecdote a rapport à ça?
Bien sûr.
D'accord.
Mais qu'est-ce qui il s'est passé plein de trucs, du coup, en conséquence de cette chaleur?
Ils ont des plaques?
Des moustiques?
Des moustiques? Non, ok, mais.
Encore des athlètes qui ont tombé avant la fin?
Ouais, alors ça, c'est carrément. Et qu'est-ce qui est arrivé au.
Il y a eu un orage.
Il n'y a pas
non,
eu un orage.
Non, c'est les athlètes qui sont tombés. Eh ben, tout, il n'y a aucun qui est arrivé au bout.
Alors, si, mais tous de manière complètement loufoque. Je vous raconte un petit peu l'histoire.
Ah bon? En ambulance.
Donc, déjà, sur les 32 participants qui ont pris le départ de la course dans l'après-midi, seuls 14 ont terminé. Voilà. Et, voilà, c'est ça. Et donc, le premier athlète à franchir la ligne d'arrivée est Fred Lorz, un coureur américain, qui remportera donc le marathon de Boston un an plus tard. Mais lui, en fait, quand les gars lui ont remis la médaille, il y a un membre du public qui a demandé l'arrêt du processus en affirmant que Lorz était un imposteur. Voilà.
Ah, ah bon?
Et donc plus tard, il s'est avéré qu'au 15e kilomètre, Lorz avait commencé à avoir des crampes, donc il est monté dans une voiture. Oh là là, classique pour le marathon.
À l'époque, c'était pas trop télévisé, on voyait pas trop, donc il pouvait
monter dans une voiture.
Okay.
Autrement que lui, il y a un Cubain qui courait à un rythme raisonnable quand la faim, FIM, hein, l'a obligé à s'arrêter dans un verger pour manger des pommes. Bah, malheureusement pour lui, les pommes n'étaient pas si comestibles que ça.
Ah, zut.
Et donc les crampes d'estomac, comme notre ami Yann Diniz, nous fait arrêter sur le bord de la route. Voilà. Il finit quand même quatrième.
Ouais.
Il y a un autre gars californien qui a succombé aux conditions insoutenables de la course, voilà, parce qu'au départ il était en tête, mais il a avalé tellement de poussière entre la chaleur et le gravier, etc., qu'il a subi une hémorragie gastrique. Voilà.
Ah là là là.
Magnifique. Il n'est pas mort.
Non, mais
il
arrêtez mort. Le sport, arrêtez.
Voilà. Il y a un Sud-Africain.
N'en faites pas.
C'est ça.
Il y a un Sud-Africain qui était bien dans la course, et puis en vrai, il y a une meute de chiens sauvages qui l'a poursuivi sur plus d'un kilomètre.
Ah bah, donc, il est arrivé premier.
Il a quand même terminé.
Alors là, t'arrêtes là, tu vas vite. Là.
Il a fait un super chrono.
Ah bah ça, c'est pratique. Hein.
Voilà. Et donc, la course a finalement été remportée par l'Américain Thomas Hicks dans ce qui a été le temps le plus lent de l'histoire olympique, 3h, 28 minutes et 53 secondes.
Tranquille.
Voilà. Donc la chaleur à la base qui a déferlé sur le marathon de Saint-Louis a totalement plombé tous les candidats.
Bah oui.
Voilà, il n'y avait pas que ça, mais évidemment il n'y a que ça.
Bon, ben voilà. les prochains JO, ce sera l'année prochaine?
Dans 3 ans?
Non, c'est dans 3 ans, c'est 2028.
C'est tous les 4 ans.
Ce sera d'hiver, ouais, l'année prochaine, c'est ça? Et après, ok. Très
voilà.
Bien. Bon, eh bien, merci
petite
Clément.
Histoire.
Pour nous réchauffer, parce qu'on avait un peu froid.
Voilà, ouais. Tout à fait.
Donc, c'est tant mieux. Très bien, merci. Allez, vous êtes toujours sur Radio G. On est en direct et vous pouvez jouer avec nous grâce au chat sur le site radio-g.fr. Il vous suffit d'aller sur le site et de cliquer sur chat. Et puis, vous nous parlez en direct. Hein, on voit. Et ce soir, on parle de l'été. Et donc, c'est le moment de retrouver les questions de Florian. Et quand on parle d'été, eh bien, il a la science infuse.
Oui, du coup, quand on m'a dit qu'il fallait parler d'été, je me suis dit autant parler boisson.
Oui.
Boisson chaude.
Ben oui,
tu
oui,
vas
bien
infuser
sûr.
Alors ce soir. J'avais
infusé, effectivement.
D'où le jeu de mots, merci là, de le relever, ce saut.
Là, j'infuse dans ma sueur.
J'ai pas envie de savoir.
Non, mais ça va être thématique ce soir.
Non, alors boisson chaude ou fraîche, parce qu'il existe aussi des thés glacés, du coup. Et pour l'été, c'est quand même super agréable. Du coup, on va commencer par une question botanique.
Oh. Oui.
Puisque le thé est une plante.
Jusque-là, ça va.
C'est bon.
Ok, on est bon.
Mais est-ce que vous connaissez à quoi ça ressemble, du coup, le théier ? Du coup, l'arbre qui fait du thé, ou l'arbuste qui fait du thé. À votre avis, est-ce que donc, c'est une plante qui ressemble à, trois propositions,
oui,
au rosier, au camélia, aux hibiscus ?
Hibiscus, c'est pas mal ça.
Peut-être hibiscus.
Ouais. Non, rosier, non.
Ah, hibiscus.
Non. Hibiscus, oui.
Hibiscus par là. Il y a beaucoup d'hibiscus, ouais, apparemment.
Camélia,
c'est pas parce qu'on peut infuser la fleur d'hibiscus, alors on part là-dessus.
Et
peut-être.
Puis camélia, c'est des grosses fleurs, des grosses. Non, ouais, c'est. Oui, les feuilles de camélia, c'est énorme.
Bah.
Les feuilles de thé, je voyais ça plus petit, moi.
C'est plus petit, mais moi, j'aurais dit camélia.
Ouais. Bon.
Alors, effectivement, c'est le camélia.
Camélia. Ah bon.
Eh oui, puisque le théier, en fait, est l'espèce Camélia sinensis.
Donc bravo à Mapi, hein, qui a réussi. Qui...
bravo Mapi. Qui est originaire donc, d'Asie orientale et méridionale.
Il s'appelle Mapi.
Oui.
Non. Bienvenue.
Non, Camélia.
Ah oui, Jordana. Le camélia.
C'est un camélia. Donc effectivement, les feuilles de camélia. C'est les feuilles, hein, c'est pas les fleurs, du coup.
Ouais.
Les feuilles de camélia sont moyennes, on va dire. Elles sont pas énormes non plus. Mais en fait, le thé, c'est juste les bourgeons. En fait, c'est les feuilles les plus jeunes qu'on cueille.
D'accord.
On cueille pas les grosses feuilles toutes épaisses, en fait. C'est pas ça qu'on. Donc en fait, c'est voilà, les feuilles de thé sont beaucoup plus fines que ça. Donc le camélia est appelé chawa en Chine, tsubaki au Japon et dongbuekot en Corée. Mais le thé prend un autre nom. Est-ce que vous savez c'est quoi l'autre nom du thé?
Bah le thé.
En général, non.
Le tea.
Le tea, le cup of tea.
Ouais, mais alors dans les langues asiatiques du coup,
le thé.
Et souvent. Ça, si tu nous poses la question, c'est qu'on doit savoir c'est.
Bah oui,
c'est...
oui, c'est qu'il y a des, il y a une sonorité qui
va nous parler.
Qui peut arriver, notamment avec le thé.
Lipton.
C'est pas mal.
On tente, hein.
Ouais, on tente.
Bienvenue dans Radio Raciste.
Ah ouais, nous on peut te faire des bonnes imitations là.
Avec le thé japonais par exemple.
Il y a une marque. Alors,
non, c'est vrai, non.
Il y a une marque.
Le thé bien
fou. Non, il y a pas de marque. Bon, je vais vous le dire.
Saké.
Mais non. Bon, du coup, c'est tcha.
Ah,
tcha, comme le matcha par exemple.
Ah oui, tcha.
Ah oui.
Bah oui.
D'accord.
Ou des dérivés, donc tcha, chai aussi.
Chai.
On voit ça souvent.
Bad chai, ouais. Chai, c'est parce que c'est des épices associées, mais
non, bah c'est le thé.
C'est ça.
En fait, c'est le nom
d'accord.
du thé. C'est comme ça.
D'accord.
Dans d'autres langues asiatiques et même européennes, en russe, c'est chai aussi d'ailleurs.
Donc, vous pouvez réagir sur le thé sur Radio G si vous voulez.
Voilà pour un petit tour de botanique. Ensuite, à votre avis, combien il y a de sortes de thé?
Ouf. Oh là là. Alors,
je ne demande pas les sortes.
Alors, noir,
couleurs,
vert,
pas les couleurs.
Toutes les marques.
Je pense une centaine.
Pas ça?
Oui, j'aurais dû 150.
Une centaine, ouais.
Mais on va s'en rester aux sortes de thé les plus basiques.
Grande famille. Thé noir, thé vert.
Il y en a plus de 10.
Est-ce qu'il y en a 2, 4 ou 6?
Ah, bah d'accord, classique. Bon, 6.
6.
Ben, 6 comme olive, ouais.
Ouais, ouais. Si, si.
Il y a thé vert, thé blanc.
Alors, on va les citer du coup.
Thé noir.
Thé blanc.
Ouais,
thé noir, thé vert, thé blanc.
Il y en a déjà trois.
Ouais. Le thé jaune, oui.
Pas le thé rouge, du
et ça suffit.
Le thé jaune, il n'y a pas le thé rouge, ça fait pas partie des.
Bah, t'es con.
Bon, allez, 6 aussi.
Ouais, j'aurais dit 6.
Ouais.
Ça me paraît plus.
Le téton.
T'es tard.
On va tous les faire, hein.
Absolument.
Vite, bon,
alors, il y en a 6.
Ah, bah, tu vois.
Le thé noir, le thé vert, le thé jaune, le thé blanc, le thé oolong et le thé. Post-fermenté.
Ouf.
Et effectivement, on peut parler du thé rouge. Mais alors, le thé rouge, en fait, c'est le thé noir en Chine. Parce que le thé noir en Chine, ça, c'est en fait, enfin, ils ont inversé les noms des thés.
Mais, ah d'accord.
Enfin, bref, donc le thé noir pour nous, en fait, c'est le thé rouge
pour eux
en Chine.
Mmh. Et chez nous, ça n'existe pas le thé rouge, en fait.
Et pour nous, le thé rouge, alors si, ça serait plutôt le rooibos.
Le rooibos.
Ah oui,
mais le rooibos
thé,
n'est pas du thé.
Non, c'est pas du thé, c'est pas le même.
Pas du tout du thé. Donc voilà, c'est juste.
Alors Mapi n'aime pas le thé. Alors, ma pire, on s'en bat un petit peu. Hein. Mais alors, en tout cas, t'as bien fait de réagir.
En fait, la différence juste de thé et du coup des couleurs, en fait, c'est la même plante. Mais en fait, c'est juste les étapes de traitement des feuilles, en fait, qui vont pas donner du tout la même couleur après.
Et les mêmes saveurs aussi, j'imagine.
Et les mêmes saveurs aussi.
Oui, une question de fermentation aussi.
Mais pas que.
D'accord.
Je crois que c'est-à-dire... le thé noir, c'est un souci d'oxydation ou c'est...
Effectivement. Du coup, le thé noir, en fait, lui, il a suivi pratiquement toutes les étapes du traitement du thé. Donc, il y a le flétrissage. Donc, on retire l'humidité de la feuille de thé. Il y a le roulage. Il y a l'oxydation, effectivement. Donc, on met dans une pièce chaude et humide. Du coup, ça oxyde. Mm-hmm. Il y a la dessiccation. Donc, du coup, on arrête l'oxydation en chauffant à 90 degrés. Et après, on trie les feuilles voilà, et on les met en boîte.
Et du coup, en fait, il a perdu toutes ses vertus, non?
Je pense non, pas forcément. Ouais. Bah, pas forcément, mais.
Non, le thé noir, il y a de la théine encore dedans. Ouais.
Donc, c'est pour ça qu'en fait, les feuilles, elles sont plus noires que le thé vert, en fait.
D'accord, mais à la base, c'est toujours la même feuille.
C'est la même feuille. Alors.
Pas pour tous.
C'est la même plante.
Ouais.
C'est le Camellia sinensis. Et après, il y a, selon l'été, en fait, on cueille plutôt les bourgeons, les fleurs, les feuilles toutes naissantes ou les feuilles un petit peu plus basses.
D'accord.
Mais au final,
Si ça s'appelle thé, ça vient forcément de la même plante.
Ça vient forcément de la même
plante. Sinon, c'est rooibos.
Sinon, c'est pas du thé.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc, le thé vert, en fait, là, on chauffe tout de suite les feuilles après la cueillette. Donc, il n'y a pas d'oxydation du tout. Le oolong, c'est un semi-oxydé. Donc, il est entre le thé vert et le thé noir. Le thé jaune, là, c'est juste les bourgeons, les jaunes bourgeons du thé, en fait, qu'on cueille et qu'on fait fermenter un tout petit peu. Et le thé blanc, c'est à peu près la même chose. Et le thé post-fermenté, alors là, c'est intéressant.
On le fait fermenter et on le prend après.
On fait fermenter, et du coup, c'est un processus complet et très très long, puisqu'en fait, on a l'oxydation, on a la torréfication.
Ah, il le brûle un peu.
Des feuilles.
Okay.
Et on a une fermentation sur une longue durée. Et d'ailleurs, en Chine, on a
après la torréfaction.
Voilà. Et du coup, en Chine, on a des thés qui sont millésimés. Les post-fermentés, donc les thés noirs en Chine, sont millésimés.
Mais parce que sinon, ça ne se conserve pas, en fait, le thé, alors
si, mais du coup, ça se déprécie, je pense. Du coup.
Par contre, les autres, comme ils sont fermentés, ils peuvent durer plus longtemps.
Voilà, c'est ça. Et du coup, on les garde. Et alors, apparemment, ça aurait un goût terreux, évoquant le cuir, les feuilles humides et les champignons. Donc,
si ça ne donne pas envie. Hein.
Si ça vous dit.
Ça donne pas envie.
En général, la fermentation, c'est quand même pas très bon quand c'est trop poussé. Donc après, il y a d'autres sortes de thé. Il y a le Darjeeling, Earl Grey, Matcha. Mais tout ça, en fait, c'est juste soit des régions où le thé pousse, soit des thés aromatisés. Le Earl Grey, par exemple, il est aromatisé à la bergamote. Voilà, tout à fait. Et le Matcha, c'est le thé vert, du coup, réduit en poudre au Japon, qu'on mélange avec de l'eau.
D'accord.
Ensuite.
Oui, on t'écoute, on a là...
Encore deux, allez. Est-ce que vous arrivez à me dire les 10 premiers producteurs de thé au monde, les 10 pays, les 10 premiers pays.
Ah, les pays.
L'Inde.
Les 10 premiers.
La Chine.
Alors, ouais. Le premier, la Chine. Okay. La Chine.
L'Inde, okay. Du coup.
L'Inde ensuite.
Ouais.
Le Japon, peut-être.
Non. Alors si, mais ils ont 10e position, le Japon.
Bah, l'Angleterre.
Alors, l'Angleterre ne produit pas du thé.
Ils consomment.
Mais... Ah oui, ok.
La Corée du Sud.
Non.
C'est toujours dans cette région-là.
Alors là, non, le troisième, il n'est pas en Asie.
Alors, en Amérique du Sud.
Amérique du Sud, je pense.
Non.
Laos.
En Afrique.
En Afrique.
Ah.
En Afrique.
Le Sri Lanka, dit Mathieu.
Le Kenya, effectivement.
Sri Lanka. Non.
Le Sri Lanka en quatrième position.
Bien, Mapi. Bali.
Non.
Indonésie.
L'Indonésie en huitième position. On a encore un petit pays asiatique.
Philippines.
Non. Non, 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 à côté du Laos.
Vietnam.
Le Vietnam, tout à fait. Ensuite, on a un pays européen en sixième position.
Espagne. Enfin,
Eurasiatique, on va dire. Entre les deux.
Turquie.
La Turquie, ouais. Effectivement. Je pense qu'il faut beaucoup d'eau. En Turquie, ils doivent consommer pas mal d'eau pour faire pousser le...
La Malaisie, on propose sur Internet.
Alors, non.
Non.
Un autre pays asiatique, mais plus près de nous quand même, qui fait l'actualité en ce moment.
Israël.
Non.
L'Iran.
En Iran. Ils font du thé. Donc l'Indonésie, on l'a dit. Et ensuite, il y a l'Argentine en neuvième position. Ils font pousser du thé.
Est-ce qu'on en fait un peu en France ou pas du tout?
En France, il y a un peu de thé, mais je crois qu'on est en 30e position. Enfin, c'est pas énorme. Et je ne sais pas où on fait pousser du thé en France.
D'accord. Parce que Willy, il va beaucoup dans les maisons en thé.
Ouais. Il est bon.
Oh là 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 là, elle était jolie.
Alors, dernière question, du coup. Est-ce que vous savez que le thé, au 19e siècle, a servi à. Comment dire? À traiter les personnes qui consommaient beaucoup trop d'alcool.
Ah bon?
On faisait boire du thé, du coup, pour compenser, du coup, le. Enfin, pour pas qu'ils boivent de l'alcool, en fait, on leur faisait boire du thé.
Ah ouais?
Notamment en Angleterre et en Russie, c'est là où on importait beaucoup, du coup, le thé.
Ouais, du coup, maintenant, les Anglais boivent beaucoup de thé, du coup.
Et du coup, le thé a donné quand même certaines idées pour faire des cocktails.
Ah, les cocktails au thé.
Alors, est-ce que vous connaissez le thé ponche?
Oui. Oui.
Mais c'est pas ça.
Mais il y a du thé.
Mais je
dans
pense
le
que vous ne connaissez pas le même.
Ah, oui, parce que le thé ponche, il n'y a pas, y a
le
pas de thé dedans.
Le thé ponche avec T-T-E-A.
Ah, d'accord.
Comme le thé. Et à votre avis, c'est fait à base de quoi? Donc, le thé ponche.
Bah, du rhum et du thé.
Bah, non. Alors. L'objectif, c'était de.
Ah, de plus faire de l'alcool. Ah oui, bah non, il a passé une autre question là.
C'est une autre question.
Ouais. Ah bon, pardon.
Ah oui, non, mais faut le suivre. Donc on peut remettre de l'alcool parce que c'est pas
tu
un cocktail sans alcool.
On peut remettre de l'alcool dedans. Non, et effectivement, il y a de l'alcool. Ouais. Alors il y a du rhum.
D'accord.
Il y a du thé. Okay. Mais il y a autre chose.
Alors du citron, du.
Alors un petit ponche.
D'agrumes.
Gazeuse.
Dans le petit ponche classique qu'on connaît des Antilles, il y a quoi d'autre?
T'as un peu d'agrumes, non?
Il y a du sirop de canne.
Il y a. Alors il y a du sucre et il y a du citron. Ouais. Et il y a encore un petit truc en plus.
Ah,
un peu de cannelle?
Non, non, non.
C'est quoi? C'est une épice?
Ah, de la menthe?
Non.
De la vanille?
C'est un alcool encore.
Ah, merde.
Ah
ouais, parce que ça suffit pas le rhum.
La vodka?
Non.
Rhum vodka, non.
Alors, je vais vous dire les quantités whisky, hein, si vous voulez refaire chez vous. Mais à boire avec modération.
Du whisky, non, c'est anglais ça.
Non. Alors, du coup, il y a une demi-pinte de rhum, une demi-livre de sucre, un jus d'un gros citron, et une demi-pinte de brandy.
Oh!
Qui est une eau de vie en fait de vin rouge,
ouais,
un style cognac.
Ah oui, non mais
c'est un vin.
Et donc on appelle ça de l'alcool à 90.
Et effectivement, c'est assez fort. Et donc il faut faire cuire tout ça dans un gros chaudron.
Ouais.
Et vous rajoutez au fur et à mesure donc 1 litre de thé vert.
D'accord.
Que vous remuez et que vous servez ensuite. Voilà.
D'accord.
Le type ponche.
Mais bon.
Alors l'été, je suis pas sûr.
Ouais.
Mais je pense que ça doit être bon, ouais.
Ouais, bah écoute, il y a Mapi qui aimerait bien qu'on passe au café maintenant, parce qu'elle n'aime pas le thé, mais sauf que ça n'a pas rapport avec l'été, puisqu'aujourd'hui on parle de l'été.
Et bah il y a le Irish Coffee du coup.
On va finir l'émission surtout.
Hein?
On va finir l'émission.
Oui, ça y est, c'est fini, il est 20h30. Allez! Soso est de retour.
Oui, mais voilà.
Pour le meilleur, mais on l'imagine aussi pour le pire, voici le Soso Show.
C'est chaud. C'est chaud. C'est le So-So Show.
Et on passe le bonjour aussi à Sandy qui nous écoute ce soir.
Ah, bonjour.
Alors, chaque été, c'est la même ritournelle. Des nouveaux hits envahissent les ondes, accompagnant donc nos trajets vers les vacances. Et bien sûr, ils restent dans nos têtes bien après la rentrée. Alors que ce soit une nouveauté qui débarque dès le mois de mai ou une vieille pépite qu'on adore ressortir du placard, les chansons de l'été ont ce don unique de marquer donc nos souvenirs ensoleillés. Et donc, ce soir, été oblige et fête de la musique. En prime, il n'en fallait pas plus, bien sûr, pour que je vous propose ce soir un petit quiz sans puissant musique estivale.
Yeah.
Alors, ces tubes sont devenus de véritables rituels saisonniers, incontournables compagnons donc de nos apéros en terrasse, des soirées discothèques ou bien soirées sous les étoiles. Cette année encore, impossible d'y échapper. Alors, est-ce que vous êtes prêts à tester vos connaissances?
Alors non,
mais
je crois qu'on n'a pas le choix.
Très chaud. Mais du coup, c'est les nouveautés actuelles.
Non, ça peut être des pépites ou des nouveautés.
60,
mais je parfais votre culture musicale, messieurs, autour de cette place.
Alors, quand elle a préparé l'émission, elle nous a envoyé un clip.
Ah, oui.
Et on a regardé avec Olivier un clip. Voilà, c'était très gonflé.
J'ai essayé de faire
gonflé.
Pour les petits jeunes.
Ah, je vois qui c'est.
Pour les plus anciens.
Pour les plus anciens. 87, je crois.
Alors, du coup, je vais vous donner des indices et vous aurez à découvrir la musique, enfin hein, le tube de l'été, éventuellement retrouver l'année. Voilà, on va faire selon.
Ok,
on est chaud. C'est parti.
Alors, on y va.
Alors,
premier
morceau. Alors là, je vous donne l'année, il est sorti en 89. Ça vous situe un peu.
Ah,
Clément, il est là. Oh, c'est pas pour moi. Hein. Alors, l'accordéon est l'instrument phare de la chanson.
Ah,
ouais, je l'ai.
Tu l'as? Alors, attends, on fait tourner un petit peu.
Ah,
non. C'est pas un tube de l'été, ça reste pas. Ça a été un tube, mais pas de l'été forcément. Le clip a été tourné sur une plage tropicale.
Si, c'est bon, je l'ai.
Et on y découvre Chico et Roberta.
Qui jouent et qui dansent.
Exactement. Ce morceau a marqué l'été avec une danse sensuelle et qui a été aussi très controversée. Il est interprété par un groupe franco-brésilien et le titre est aussi le nom d'une danse brésilienne. Vous l'avez tous autour de la table, Clément.
C'est Chico, quoi.
Ah non.
Allez, on y va.
La lambada.
Yes, bravo. Qui a dansé la lambada là autour de la table?
Moi, avec ma mère.
Ouais, ça marche. Moi aussi j'ai dansé.
Oui, bah oui,
on dit non quoi.
Bah c'est ça.
Donc 89.
En 89, ah,
ça
Alain
fait
Bala.
Mal. Hein. Ça fait très très mal.
Allez, là on part dans les années 60. Oh, oui. Et là j'ai perdu Clément.
Ouais, on a perdu Clément.
Donc il est sorti au début des années 60. Il est interprété par un groupe américain emblématique des harmonies vocales. C'est leur spécialité. Le titre évoque une activité populaire sur les plages californiennes. Ouais, pas mal.
Surf.
Là tu l'as, je pense. Le groupe est connu pour ses chansons célébrant l'été, la plage et la jeunesse. Leur morceau est devenu un hymne, effectivement, du surf. Est-ce que vous les avez ?
C'est pas les California...
Beach Boy ?
Oui. Et quelle chanson ?
California Dream, non ?
Oui. Non.
Avec le surf ?
Surf quelque chose ?
Surf in USA.
Ah d'accord, rien à voir.
Oui. Ah bah oui, effectivement.
Donc ça, c'était en 63. Ouais.
Si vous voulez jouer avec nous, Yamapi, qui joue aussi, elle avait faux au dernier, mais elle va se rattraper. Vous pouvez aller sur le chat radio-g.fr.
Allez, on est parti maintenant. Le morceau est sorti dans les années 90. Il a marqué l'été avec son énergie festive. Bon, jusque-là... C'est encore un peu vaste. Le titre évoque une action symbolique de lâcher prise et de faire la fête. Mmh. La chanson mélange des influences rock et musique traditionnelle. Il est interprété par un groupe français originaire de Toulouse. C'est un duo.
Zebda.
Ouais, Zebda. Il rend hommage à un titre de Rick Azaray.
Ouais, son chemise, son pantalon, d'accord, je vois, ça y est.
Le refrain donc est un véritable appel à se déchaîner sur la piste de danse. Effectivement, il s'agit de Zebda avec Tomber la chemise.
Bravo Zebda. Sur internet, on avait trouvé aussi.
Allez, on revient plus récemment maintenant. Ce morceau est sorti en 2017 et il a rapidement conquis le monde entier. Il est interprété par un chanteur portoricain accompagné d'un rappeur célèbre.
C'est bon.
Le clip a été tourné à Porto Rico. Il a battu d'ailleurs des records de vues sur YouTube. Moi, j'ai détesté cette chanson, mais ma foi, j'ai dansé quand même. La chanson mélange reggaeton et pop latino avec un rythme sensuel et entraînant. Le titre signifie lentement. En espagnol.
Despacito.
Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube. Caliente.
Calor.
Alors là, on revient dans les années plus anciennes. Alors,
Clément.
Ce morceau est sorti dans les années 80. Il est devenu un classique de la pop française, là, pour le coup. Il est interprété par une chanteuse française au style électro-pop. La chanson, elle est connue beaucoup en Europe. Et son interprète arbore une coiffure audacieuse et un style androgyne iconique des années 80. Ça, c'était en 86, est-ce que vous l'avez ?
Ouais, je l'ai.
Ouais, avec
Voyage.
Clément nous informe qu'il a Desireless dans sa playlist. Alors, on va laisser la chanson suivante, Jonathan et Clément répondre, puisque c'est rien que pour eux que je l'ai fait, celle-ci. Alors, cette chanson fait partie de l'album, alors 2024.
Ah oui,
voilà, donc l'été dernier. Cette chanson fait partie de l'album Emails. I can't send emails I can't send, pardon.
What? Elle ne peut, donc, pas, elle peut pas envoyer ses emails. Elle a des problèmes d'envoi.
Une chanteuse, actrice et danseuse américaine connue pour son style pop et ses paroles sincères. Je ne la connaissais pas pour le coup, donc voilà. Le titre évoque une boisson énergisante, mais aussi une métaphore pour une sensation vive et intense.
Je sais pas. Est-ce que oui, c'est, je pense l'avoir, mais je suis pas sûr.
Pour vous deux, boisson chaude très populaire, originaire d'Italie.
Oui, c'est bon, j'ai.
Boisson chaude, mais je l'ai pas moi.
Tu je sais, ça va.
Du café
espresso.
Bah, oui.
De Sabrina Carpenter.
Sabrina Carpenter.
Elle
avait son concert il n'y a pas si longtemps.
C'est vrai. Allez, on va retourner là. Tout le monde va l'avoir autour de la table. Donc, c'est le premier qui lève la main et on verra après la réponse.
Ok.
Alors, le titre est aussi le prénom d'une femme mentionnée dans les paroles. La chanson mélange des rythmes latins et une ambiance festive irrésistible. Ce morceau est un classique, mais vraiment un classique des années 90, connu pour sa chorégraphie emblématique. Il a été interprété par un duo espagnol et a conquis les pistes de danse du monde entier. Mia Farai a créé la chorégraphie que tout le monde peut reprendre dans les mariages.
Ouais.
Je suis.
Ah, ma pied avait répondu, mais elle m'a répondu ça, mais tout au début. Ouais.
Je suis la Macarena. Donc Clément dit que c'est la base dans les mariages. Est-ce que vous l'avez eu à votre mariage, cette chanson?
Non.
Même pas.
Oui, ma pite avait anticipé, effectivement.
Allez, suivant. On est parti en 2015, hit international qui est devenu viral grâce à un remix au beat tropical signé par un DJ allemand. DJ allemand, peut-être ça vous parle. L'artiste originaire de la Jamaïque célèbre la présence de sa petite amie comme un soutien inconditionnel. Semble-t-il peut-être une pom-pom girl. Est-ce que ça vous aide? Le remix de Félix Jaén a propulsé donc ce morceau au sommet des charts mondiaux. Donc ça doit être lui le comment ça s'appelle, le DJ allemand.
Ouais.
Elle s'est imposée comme l'un des tubes incontournables de l'été 2015, atteignant la première place dans plus de 20 pays. Donc Pom Pom Girl, non, ça vous aide pas pour trouver le nom de
Je l'ai, mais je j'ai pas le nom, mais je sais.
Ça se voit.
L'artiste, c'est Omi.
Oui, cheerleader.
Oui, voilà. Bravo.
Marie-Jo et Thierry nous ont rejoints également.
Il y avait Lali G aussi.
On leur souhaite le bonjour.
Chanson, pardon.
Oui, excuse-moi, c'était parce que par rapport à des gens qui
nous auditeurs. Excuse-moi aussi, pardon, je te coupe.
Oh, excuse-moi.
Alors là, s'il était là, il aurait trouvé tout de suite. C'est une spéciale dédicace, mais peut-être je vous en dis trop. Alors je m'arrête et puis... Cette chanson, elle est chantée dans une langue africaine, le Douala, et elle célèbre l'amour et la joie universelle. L'artiste est originaire du Cameroun, et cette chanson, elle a marqué les années 90, donc hit mondial. Le titre signifie « amour » ou « chant de l'amour », hein, en Douala. Il a été remixé à plusieurs reprises, mais voilà, la version originale est inoubliable. Raph est un expert dans la chorégraphie de cette chanson que je lui dédie tout spécialement avec tout mon amour.
Et alors, ben on n'a pas trouvé.
Vous n'avez pas trouvé?
Je suis pas sûr, j'ai une hésitation, mais c'est peut-être pas ça, c'est pas Jérusalem.
Non, pas du tout.
Elle n'est pas dans le Roi Lion.
C'est en 97, non.
C'est pas ça là.
Alors, Raph, si tu nous écoutes, tu pourras nous redonner ta réponse, mais je vais vous laisser écouter peut-être parce que j'ai pas d'autres indices à vous
d'accord,
donner.
D'accord, on va laisser trouver avec la chanson alors.
Voilà. Mia Fry dedans, je sais pas si c'est elle qui a fait la choré, mais effectivement.
Alors sur internet, on avait dit Saga Africa, mais non, c'était pas ça.
C'était pas ça, mais c'était bien tenté. Ouais. Bravo, Mapi, quand même, pour ta proposition. Donc c'était Wes avec le titre À l'année.
Ah, allez, c'est à l'année.
Le dernier, attention, Là, vous gagnez tous les points.
Ouais.
Bon, ça date de 87, mais forcément tu connais. Alors, c'est parti. Ce morceau est un hymne de l'été des années 80, connu pour son clip audacieux et ensoleillé à l'époque. Il est devenu un classique, encore maintenant, des soirées rétro et des playlists estivales. C'est obligé, elle y est, cette chanson. Le clip se déroule autour d'une piscine, avec une ambiance estivale et insouciante. Mm-hmm. L'artiste est une chanteuse italienne devenue une icône pop grâce à cette chanson. Et le maillot de bain de la chanteuse a fait fureur.
Ouais. Et puis c'est en rapport avec le sujet, c'est les tétons.
Et suis dans la... Alors on y va.
Sabrina.
Boys, boys, boys.
C'est dommage qu'on ait que le son.
Mais effectivement, bien, Sabrina, même encore.
D'accord.
Une jolie femme.
On te croit. Et donc maintenant, autre surprise.
Ouais, je continue. Du coup, je ne savais pas si tu voulais que je le fasse plus tard, mais vite fait.
Juste la surprise pour le medley.
Un petit combo, un petit medley pour un petit peu les couleurs de cet été 2025, voir quels seront nos tubes de l'été. Donc, je vous laisse écouter et peut-être qu'il y a des titres qui vont vous parler, mais voilà, ce sera les propositions de cet été.
On pousse les meubles, on y va et on danse malgré la chaleur. C'est parti.
Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi, je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes.
Le combo, le medley de cet été. Est-ce que vous avez reconnu les titres? Il y avait Ed Sheeran, Epsilon, Aya Nakamura, Damiano, Wiz MC, Marguerite, Calvin Harris, Gims et Jules. Et pour finir, Lady Gaga.
Ouais.
Merci Didier Soso.
Vous allez danser cet été.
Ça donne chaud. Hein. Allez, vous êtes dans le QG sur Radio G et vous pouvez nous écouter en direct aussi. Vous pouvez jouer avec nous sur le chat. Vous allez sur le site radio-g.fr et vous pouvez nous écrire. On vous lit en direct. Il est maintenant temps de retrouver Willy, avec qui il se passe plein de choses cet été.
Ah ouais. J'aime bien mon jingle. Tu
voilà.
Non, mais évidemment, l'été s'est bien installé, on l'a bien senti. Moi, donc, je vais vous parler des événements estivaux.
D'accord.
Parce que bon, l'été, c'est pas que les apéros, les barbecues, tout ça. C'est aussi une saison riche en histoire, hein, en fêtes et en activités, je vais dire variées, parfois insolites. Alors, d'abord, on va commencer gentiment pour tester un petit peu votre culture. Déjà, on va voir si vous en avez.
Ah ouais, ça commence bien. Ça commence bien.
Et on va partir sur des événements historiques. D'accord. Alors on commence avec un premier extrait d'ailleurs.
Ah, c'est parti.
As one small step for man, one giant leap for mankind.
Bon, serait-ce en 1969.
Alors, c'est ça. À quelle date a eu lieu le premier pas de l'homme sur la Lune?
Ah.
Donc 69, c'est bien, mais la date.
Juillet. Alors attends, juillet.
17 juillet. 69.
Ah, c'est en juillet.
Ouais, c'est en juillet, mais.
Ah oui, c'est l'été.
Oui, non, mais j'ai bien compris, mais en juillet. Août, hein,
C'est pas le 17,
c'est
alors. Ouais.
C'est pas le 17.
23.
Ouais.
C'est pas le 23.
Le 11, alors, je pense que c'était en début.
Non plus.
Non, fin juillet.
Je me souviens pas très bien.
Non, mais là, on va faire toutes les dates. Mais...
Alors, je sais pas, pour ceux qui sont un peu calés en astrologie, c'est la fin du cancer. Donc,
Le 21.
21 cancer. Voilà. Ouais, bravo. 21 juillet 69.
D'accord.
Donc, avec la fameuse phrase de Neil Armstrong, un petit pas pour l'homme,
un grand pas pour l'humanité.
Exactement. Et donc, voilà, ça s'est pas. Comment?
Tu t'as vu qu'on est calé.
C'est bien, c'est bien, parce que celui-là était facile.
Ah, oh, merde. Hashtag je me la pète. Hein.
Non, non, non. Mais donc voilà, en tout cas, ça c'est un exemple des grandes choses que l'homme peut faire, avec notamment le progrès technologique. Parfois, c'est pas toujours le cas.
Et on va meilleur sur la Lune quand même, je pense.
Oui, bah justement, je vais te le dire. En fait, ils ont préféré y aller au mois de juillet, justement, parce qu'il fait un peu froid là-haut. Et...
Bah alors.
Ouais, qu'il est moins froid. Voilà. Merci.
Ok.
Non, voilà. En tout cas, je voulais dire, ils font pas, il y a pas, l'homme fait pas toujours que des bonnes choses avec le progrès technologique, parce que par exemple, quel événement tragique a eu lieu le 6 août 1945
Hiroshima. Ah, oui.
On l'a pas entendu.
Hiroshima.
Ouais. Hiroshima. Ouais.
C'est Hiroshima. Donc la première bombe atomique sur Hiroshima, et trois jours après, c'était sur
Nagasaki. Ouais.
Et est-ce que vous connaissez le nom de l'avion qui a largué la
Enola
première
Gay.
Bombe.
Ah, c'est la bombe, elle s'appelle Enola Gay.
Non, la bombe s'appelait Little Boy.
Ah, c'est ça, donc l'avion, ouais. C'est Enola Gay.
C'est l'avion qui s'appelle Enola Gay. D'ailleurs, il y a une chanson qui a été faite.
Orchestral Man of Indoor.
Oui, exactement.
Ah. Ah. Enola Gay.
Voilà. Et il se trouve que Enola Gay, en fait, était le nom, enfin le prénom et le nom de la mère du pilote de l'avion.
Eh ben, elle a dû être contente de rentrer dans l'histoire.
Parce que ce qui est affolant, c'est que je crois que l'administration américaine a fait retirer Enola Gay sur les archives du site de la Maison Blanche parce que il y avait le terme gay dans Enola Gay.
Ah oui, récemment du coup, non ?
Ah oui.
Ça fait... okay,
elle
ça va
elle l'a virée. Bon,
bah. Merci.
Ouais, ouais.
Alors là, on va voir un autre extrait.
Ah, alors on y va.
I have a dream.
Très court.
Ah, c'est très court.
C'est très court,
mais bon, tu as un rêve.
Vous avez reconnu
ce que
vous avez
MLK.
Dit. Alors, c'est pas Malcolm.
Non.
C'est en quelle année
Martin Luther King. Pardon,
A-t-il prononcé donc son célèbre discours commençant donc par I have a dream?
67.
C'était en 60. Alors, je proposition. Ah, oui. Est-ce que c'était en 62, en 63 ou en 64?
63, alors, ouais.
Ouais, c'est en 63. C'était le 28 août 1963 exactement, donc lors de la marche sur Washington. Donc discours prononcé devant plus de 250 000 personnes.
Ouais.
Voilà. Alors, je vous en fais encore deux autres. Là, on va plutôt le faire en mode question pour un champion.
Ah.
Alors, donc je suis un événement sportif majeur existant depuis plus de 100 ans. Je suis associé à l'endurance et à la stratégie d'équipe. Je traverse de nombreuses régions, plaines et montagnes.
Le Tour de France,
ouais, voilà. C'est ça.
Okay.
Et dont la première édition, est-ce que vous savez en quelle année ça a eu lieu?
1925.
Non, c'est plus vieux.
Ah, c'est plus vieux. 50? Dans les années 50.
Non, c'est 1800. Moi, je dirais que c'est
1903. Ouais. Et donc, le premier vainqueur s'appelait Maurice Garin.
On va tellement vite qu'ils n'ont pas le temps de répondre sur Internet. Donc, il y a des réponses, des questions de, voilà, avant, mais c'est pas grave.
Allez, moins vite, s'il vous plaît. Donc, voilà, le premier vainqueur du Tour de France s'appelait Maurice Garin. Donc, je sais pas si vous.
Bah oui, Maurice.
Tout le monde le connaît.
Bah oui,
c'est Momo.
Bien sûr.
Momo, ouais.
Bah oui, Momo, ouais.
Allez, un petit dernier. Donc, alors, je suis le fruit d'un parcours long et intense, ponctué de cris, de sueur et d'espoir. J'ai commencé en juin, mais c'est en juillet que le dénouement heureux a eu lieu, provoquant une immense joie nationale, ponctuée de chants et slogans comme « et 1, et 2, et 3, et 0 ».
La victoire des Bleus en 98.
En 98, effectivement. Ouais.
Oui, bah oui, forcément.
Alors, est-ce que vous vous souvenez de la date exacte du jour de la finale?
13.
12. Le 12 juillet 98.
Ah, il y a un collab.
Exactement.
J'avais un petit pyjama short, tout ça. J'étais en vacances dans la maison. On avait tout ouvert, ce qui faisait super
chaud. Sur Internet, ma pile avait aussi.
Donc, Clément, t'as pas pu y aller, toi?
Non, j'étais pas dispo.
T'étais pas dispo, ouais, c'est ça. C'est dommage, parce que je pense que t'aurais bien kiffé. Ouais.
Donc, maintenant, on attend de ta part que tu dises quand même qu'on est très fort.
Vous êtes très fort.
Merci.
Voilà.
Parce que, t'as vu comment il nous débinait dès le départ. Non. On a tout répondu quand même.
C'était exprès pour vous pour
motiver.
Vous avez soyez chaud. Ouais, ouais, piquer. C'est okay. Ça.
Bon.
Puis finalement, je me disais plus facile aussi.
Comment?
Ça a été de plus en plus facile les questions.
Ouais. Oh, ouais, c'est trop simple.
À la base, j'en avais d'autres et puis je me suis dit bon, je vais laisser
ouais,
ça.
Ouais, non, c'est bon. Ça va. Très bien.
Et je me dis en fait, finalement, cette air, ça aurait presque pu devenir notre hymne national. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi, Clément.
Même pas.
Ah oui. Après la Marseillaise, franchement.
Bah non, oui. Non. Plus guerrier, il faut là en ce moment.
Oui. Bon, d'accord.
C'est pas la joie.
Puisqu'on parle de nation, est-ce que bon, vous savez évidemment la date à laquelle on célèbre la fête nationale française?
14 juillet.
Le 14 juillet, donc là, d'accord. Est-ce que vous connaissez la date de la fête nationale américaine?
Le 4 juillet.
Le 4 juillet, donc qui est le Independence Day.
Né un 4 juillet, oui.
Voilà. Et qui correspond donc à la fête. Qu'est-ce que je raconte Si, c'est ça le. Non.
Fête de l'indépendance. Fête de l'indépendance
américaine. Oui, c'est ça, au 4 juillet, déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776, c'est ça. Ouais. Alors maintenant, plus dur. La fête nationale suisse.
Mais ils en ont une.
La Suisse.
Le
20
août.
C'est au mois de.
C'est au mois d'août.
Juillet, août. Bah oui, forcément. Ouais. J'étais, alors juillet ou août, alors déjà
début août.
Oui. Début août.
C'est début août. Rien de soit tes vacances, Olivier. Non, avant.
Le 3. Ah, le 3.
Le 2. C'est plus simple.
Le premier août.
Le premier août. La fête nationale belge.
Pilche, les Pilches. C'est aussi en juillet-août.
C'est juillet.
22 juillet.
Combien
22.
Non, on a déjà dit la date tout à l'heure pour un autre événement.
12.
Non.
Bah, le 21.
Le 21 juillet.
Ah, d'accord.
C'est ça. Et donc là, c'était en fait, c'était parce que c'est le roi des Belges, Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, qui jura de rester fidèle à la Constitution le 21 juillet 1831.
Ok.
Voilà. Bon, là, c'était un peu pour le tour de l'histoire.
Ouais, alors là, ouais, il est 20h45.
Ouais.
On fait ouais. Rapide là.
Je vais faire court. Ah, c'est histoire de vous proposer. Non, c'est histoire de vous proposer plutôt un petit agenda.
Ah d'accord. Ok.
On va dire des sorties insolites.
Bon, d'accord.
Donc dans ce cas-là, je vais passer un petit truc.
Ouais.
Dans ce cas-là, ça, je zappe. Alors, on peut envisager des activités, on va dire, un petit peu insolites. Est-ce que, par exemple, vous savez laquelle des activités suivantes existent, selon vous? Entre un championnat de sieste, une compétition de lancer de tongs, un concours de cris de cochon, l'élection de Miss Aïe et un championnat de course d'escargot.
Il y a plusieurs choix.
Alors, je suis sûr qu'il y a plusieurs choix.
Les tongs existent.
Les tongs existent.
Les tongs existent, c'est sûr.
L'ail aussi, je suis sûr.
Ah non, pas l'ail.
Non?
Moi, non, escargot, ça existe.
Escargot,
ça, c'est sûr, ça existe. La tongue, ça existe.
Je me demande si le championnat de sieste n'existe pas. Je me demande.
Je pense pas, quand même.
Bah, en fait, elles existent toutes.
Ah, là, il existe.
C'est pas que ça, d'ailleurs. Alors, par exemple, si vous voulez cet été sortir, le championnat de sieste a lieu en Provence, hein, ça s'invente pas.
Ouais.
Donc, c'est pendant juillet-août, en fait, selon les communes, donc les dates sont différentes selon les communes qui participent. Le but, c'est de dormir le plus longtemps possible, tout en gardant une position immobile malgré les bruits autour.
Ah, ça, c'est difficile.
Voilà.
Ouais.
Après, si vous préférez quelque chose de moins statique, de plus actif, donc il y a le championnat du monde de lancer de tongs, Tong Master,
qui aura
lieu le 20 juillet. Donc c'est du côté de Lacanau, sur la place du Mochik. Et donc là, le but, c'est de lancer une tongue le plus loin possible et avec un receveur qui doit l'attraper.
Okay. C'est à quelle heure, c'est à quelle heure?
Alors, j'ai pas l'heure, mais c'est le dimanche 20 juillet.
D'accord.
Sinon, vous avez la variante, vous avez le championnat de Pays Basque de lancer d'espadrilles à Bayonne.
Ah oui, c'est une petite variante, effectivement.
Le 31 juillet. Mmh. La fête de l'ail, effectivement, elle existe. C'est dans le village de Lautrec, dans le Tarn. Et ce sera le premier week-end d'août.
Ah, on se parle plus après, du coup.
Donc là, il y a un concours de tressage d'ail.
Ah oui.
L'élection de Miss Aïe.
Oh la vache. Ah, et Miss Aïe.
Je sais pas si tu mets ça sur ton CV.
Ouais, Miss Coup de la gueule.
Je suis pas sûr.
Et ça se joue sur quoi? Ça se joue sur la laine, c'est ça?
Alors, je sais pas. Effectivement, j'imagine peut-être que c'est celle qui en mange le plus et après ça transpire davantage. Tu vois.
Arrêtez.
Je sais pas. Bruno, tu gagnes. Hein.
En tout cas, si vous voulez y aller, ce sera le vendredi 1er et samedi 2 août dans le village de Lautrec. Et sinon, alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la pourquelade?
C'est un plat régional?
Non, c'est pas un plat régional. Enfin, même, on n'est pas très loin quand même, il y a de l'idée.
C'est une boisson?
Non. En fait, c'est la fête du cochon.
D'accord.
Et donc, la 42e pourquelade aura lieu le dimanche 10 août à Trie-sur-Baïse. Donc, c'est dans les Hautes-Pyrénées du côté de Tarbes. Et là, vous avez un championnat de France de cris de cochon.
Mmh. Voilà.
Championnat du monde de lancer de cochon en plus.
Voilà,
une course de porcelet.
Bah oui, on va pas lancer des vrais cochons.
Et le concours du plus gros mangeur de boudin.
D'accord. Bah écoute, ça c'est de l'info. On va s'arrêter là, je
donc,
pense.
Dimanche 18.
On peut s'arrêter là. Très bien.
Déjà, faut avoir la force. Hein.
Pour ta question d'avant sur Internet, on nous précise qu'hier c'était la fête nationale du Luxembourg. Effectivement, c'est l'anniversaire du Duc hier.
C'est vrai.
Donc c'était l'anniversaire du Luxembourg. Ok, la fête. Merci de ça. Et bien maintenant, voilà la chronique d'Olivier.
Olivier, Olivier, c'est la question d'Olivier.
Allez, des petites questions sur le cinéma.
Oh,
des
films
cartonnés l'été. Vous connaissez tous la série Die Hard.
Ouais.
Oui.
Donc le premier, c'était Piège de cristal en 88. Mais quelle est sa suite directe? Est-ce que c'est Une journée en enfer, 50 minutes pour vivre, Retour en enfer ou Belle journée pour mourir?
Retour en enfer.
Ouais.
Ah, c'est la 3.
Alors la suite directe, le numéro 2, celui qui est sorti.
Retour en enfer, mais c'est le 3.
90.
Une journée en enfer.
Une journée en enfer, peut-être.
Je répète, Une journée en enfer, 50 minutes pour vivre, Retour en enfer ou Belle journée pour mourir?
Une journée,
je connais pas, moi, mais les deux.
58.
Ah, oui.
58 minutes pour rire. C'est ça?
Le deuxième, c'est 50 minutes pour vivre. Après, on avait Une journée en enfer, après Retour en enfer, et pour finir, Belle journée pour mourir. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est sorti en 2014. Le pays, il est sorti dans un pays, le film est sorti dans un pays européen. Et il a cartonné. Il a fait 4 millions d'entrées dans un autre pays que la France. Est-ce que c'était l'Espagne, l'Italie, la Corée du Sud ou l'Allemagne?
Bon, je suis sûr que c'est l'Espagne.
Allemagne.
Non, faut que ce soit catholique.
Non, il a raison. C'était
l'Allemagne.
Clément, c'était l'Allemagne.
L'Allemagne, ah ouais.
Et ça s'appelait en allemand Monsieur Claude und seine Töchter.
Ouais. Et c'était pas un remake, c'était vraiment le vrai.
Ah oui, non, c'était pas un remake, non. Ça
double en allemand.
Hein. Ouais.
D'accord.
Alors, Mappy et Lorraine, je ne sais pas si, elle va, si j'ai bien prononcé. Monsieur Claude und seine Töchter.
Bah, elle pensait que c'était l'Italie.
Mais loin, en Allemagne, ça avait cartonné, mais loin de là, il y a un film qui avait cartonné encore plus français. Ça s'appelait Zimlich Bestfreunde, un autre film français. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Zimlich Bestfreunde, les meilleurs amis. En fait, c'était Intouchable, qui avait fait 9 millions d'entrées.
D'accord. Ah oui.
Zimlich Bestfreunde.
Ah, d'accord.
Pour passer vite, la saga Twilight, c'est sorti un été. Il y a eu 5 opus. Ça a commencé par Twilight Fascination. On a commencé après par Tentation, après Hésitation. Et numéro 4, est-ce que c'était Renonciation, Adoration, Révélation ou Fellation?
Je m'attendais à ça.
Révélation.
Bien.
Et pour finir, en 91 sort sous au mois de juillet en États-Unis Terminator 2 de James Cameron. Donc ça a été une révolution à l'époque avec des techniques de morphing, d'animation 3D. Quel est le titre après qui vient après Terminator 2? C'est Terminator 2 Apocalypse, Terminator 2, Jugement Dernier ou Terminator 2 Holocaust?
Jugement Dernier.
Ouais. Exactement. Et pour finir, à quel jour débute l'Holocauste nucléaire Terminator 2?
2040.
Est-ce que c'est là, aujourd'hui, c'est super bien tombé, le 24 juin 2025? Est-ce que c'est le 1er septembre 99 ou est-ce que c'est le 29 août 1997?
C'est le 29 août 1997.
Ouais, le 29
août 1997. Ah ouais, donc l'Holocauste a déjà eu lieu.
Et avec l'IA, justement, les robots qui avaient
déjà
lancé,
à l'époque,
voilà, l'Holocauste nucléaire.
Très bien. Voilà. Merci, Olivier. C'est l'heure de quoi, Jonathan, là?
La question coquine. Attends, je reviens mes deux neurones.
Ah bah, il se réveille, là.
Il fait un peu chaud.
C'est la chaleur, ouais.
Bonsoir, les coquinous. C'est l'heure de la question coquine. Vous en avez de la chance. Selon une étude menée auprès de 10 000 participants, à quelle saison y a-t-il plus d'infidélité dans les couples? Le printemps? L'été? L'automne? Ou l'hiver? Attention, méfiez-vous des apparences.
Alors,
si c'est quand même l'été.
Est-ce qu'on est plus infidèle quelle saison?
Je suis sûr que c'est l'été.
C'est l'été.
Ou alors au printemps.
Ça me paraît simple, l'été.
Ou alors au printemps, quand tu sors un peu de ta frustration
émotionnelle. Ouais, c'est possible, ouais.
Calme-toi, Willy, quand même.
Non, puis l'été, on va en vacances normalement avec son conjoint ou sa conjointe. Donc, du coup, il y a moins de
possibilités. Ouais, mais à mon avis, c'est pas ça.
L'été.
Bon, allez, on va dire le printemps, histoire de...
Printemps, été, bon, la réponse.
En automne, les couples vivraient les infidélités à hauteur de 12%. Mais il ne faut pas toujours se méfier des apparences. C'est bien en été que les cornes poussent, avec 39% des couples qui rapportent, dans cette étude, des infidélités. Alors les garçons, qui part avec moi en vacances? À bientôt les coquinous, pour une nouvelle question coquine.
J'ai vu des meilleurs plans que sortir avec une IA.
Et tu sais, maintenant, il y en a qui font qu'on compte plus que ça. Bon, allez, justement, on va jouer avec. Alors ce soir on parle de l'été, et bien voici quelques destinations de vacances chantées par notre IA. Il faut donc découvrir des villes de France qui peuvent être des destinations de vacances. Ne vous écoutez bien les paroles, vous aurez les indices pour découvrir les villes, donc vous nous envoyez le nom de la ville sur le chat de radio-g.fr.
C'est pas une vraie chanson, hein, ça. Je veux dire, c'est...
Ah non, c'est pas des vraies chansons, c'est vraiment des chansons pour donner les indices. Donc c'est parti pour la première ville à découvrir.
Au vieux port, avec ses bateaux tout blancs, résonnent les hauts-cons des mamans. L'accent chante plus fort que le mistral violent. Marius joue aux boules en jurant constamment. Notre-Dame de la garde veille là-haut, sur les calanques bleus comme des berceaux. Entre pastis frais, plateaux défauts.
Donc on est à
Dunkerque.
Marseille. Marseille. Plus difficile, deuxième ville à trouver.
Le long des quais et de la rivière dorée, les châteaux font du vin à déguster. Viennent les moelleux dans les rues pavées, le tramway passe, les touristes émerveillés. Place de la Bourse, miroir d'eau qui danse, grand cru du Médoc, quelle prestance. La cité du vin raconte la France, cette ville au cave de la chance.
Au cave de la chance.
Très bien. Ils avaient sur internet, Mapi avait trouvé également. Donc c'est
Bordeaux.
Allez, troisième ville.
Le château domine les flots salés. Barbe bleue y est passée. Les villes à belle époque font rêver. La fraiserie est au bout du quai sur la côte de Jade, rocher pointu. Les crabes dansent, les goélands brûlent. Plateau de fruits de mer bien ventrus. Tous les amis d'Olivier y sont les bienvenus.
Donc c'est
Pornic,
oui, très bien. Allez, nouvelle ville.
Le tramway file sur ce rail, sur les quais Olivier râle. Quand trop coule à flot dans les verres, les étudiants font la fête, même Clément est pas clair. On montre des fesses sur les façades de bois, dans les rues Chansonia, collégiales et cathédrales se font concurrence. Cette ville douce a de la prestance.
Donc,
Angers.
Allez, dernière.
On va envoyer ça à la mairie, non?
La dame de fer étincelle de mille feux. Mona Lisa fait sa coquette, l'air mystérieux. L'arc majestueux domine la vue immense. Le métro grouille, quelle expérience intense. 300 dorés, garçons de café râleur. Montmartre grouille d'artistes et de flâneurs. Sur le fleuve glisse bateau.
Sur internet, ils sont très très forts, ils ont trouvé aussi. Et vous, c'était
Paris.
Paris, bravo, très bien. Allez, c'est l'heure, on a une petite minute pour le personnage mystère.
Écoutez bien son histoire.
Ce soir, c'est Jonathan qui est le personnage mystère.
Bon, je découvre en même temps que vous.
Ouais.
Alors, salutations, nobles amis. Permettez-moi de me présenter, bien que mon nom doive demeurer secret pour l'instant. Je suis un homme qui a toujours vécu entre deux mondes, la réalité banale et les rêves héroïques. Gentilhomme de province, j'ai abandonné mon existence morne pour embrasser une destinée glorieuse après avoir passé des années plongées dans des récits de bravoure et d'honneur, jusqu'à que la frontière entre fiction et réalité s'estompe dans mon esprit. Mon physique n'a rien d'imposant, grand, mais d'une maigreur extrême, avec un nez aquilin. Ah, je l'ai peut-être. Une barbe grisonnante, et 50 années bien sonnées. Je viens des plaines arides du centre de l'Espagne, où ma folie sublime s'est nourrie d'une bibliothèque entière consacrée aux exploits de deux preux chevaliers d'antan. Mon exploit le plus célèbre, j'ai livré bataille à des géants terrifiants qui tournaient leurs immenses bras dans la plaine. D'aucuns prétendent que c'était de simples moulins à vent, mais que savent-ils des enchantements? Je suis le chevalier errant qui redresse les torts, même si ce monde moderne refuse de reconnaître mes nobles intentions. Alors, avez-vous deviné qui je suis? Mon nom résonne comme le symbole éternel de l'idéalisme face à un monde désenchanté.
Et alors, est-ce que vous avez trouvé autour de la table? Ah, pas trouvé? Là non plus.
Don Quichotte.
Ah bah, je sais pas si c'était Don Quichotte ou Cervantes.
C'est Don Quichotte.
Ah c'est ça.
C'était Don Quichotte. Très bien. Bravo. Bravo. Mais c'est la fin du QG. L'émission On joue ensemble. Merci à tous ceux qui ont participé sur le chat. Merci Mapi. Bonne soirée à toi. On espère que vous êtes amusés et que peut-être vous avez appris des choses. En tout cas, nous on a passé un bon moment avec vous. Merci aux membres du QG. Merci Florian.
Merci.
Merci Olivier. Merci Willy.
Merci.
Merci Sonia.
Merci à vous.
Merci Clément.
Oui.
Merci Jonathan.
Merci.
Vendredi prochain, c'est la finale de la saison de Radio G avec une méga émission. C'est le week-end à partir de 19h ici même. On compte sur vous. En tout cas, nous, on y sera dans un instant. C'est Génération Sport. Et pour le direct, eh bien, ce sera mardi dans 15 jours à 19h. Faites vos jeux et à bientôt dans notre QG.
On referme notre QG. Pour ce jour, on prend congé. Avec nous, vous avez joué. Avec vous, on s'est bien amusé. C'est fini pour
restez enthousiaste. Vous avez les podcasts. Rendez pour se faire.
Radio G 101.5 FM.